10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal, bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, nous serons en Haïti, où le nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a prêté serment hier dans un discours d'investiture à Port-au-Prince. Il promet la cohésion et la sécurité. Reportage dans un instant. Pas de confirmation de la venue du ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich à Paris. Déclaration de Jean-Noël Barrot, invité d'RFI et France 24 il y a quelques minutes. Bezalel Smotrich avait été invité à participer demain au gala Israël Forever, gala organisé par des associations. Nous y reviendrons. Le Sénégal a moins d'une semaine maintenant des élections législatives. Un rapport d'observateurs de la société civile alerte sur l'augmentation des cas de violence durant les 10 premiers jours de campagne. Et puis la COP29 se poursuit en Azerbaïdjan. Deuxième jour aujourd'hui, alors que les véhicules électriques peinent à convaincre, notamment en Allemagne, face aux véhicules thermiques. Reportage à la fin de ce journal. En Haïti, il promet une nouvelle ère sans division politique et avec une seule priorité, le rétablissement de la sécurité. L'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé a officiellement pris les rênes du gouvernement de transition hier. Il s'engage également à organiser des élections. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en l'absence de Gary Conille, limogé par le conseil présidentiel de transition. Reportage à Port-au-Prince, Peterson Luxama.
C'est à la villa d'accueil, siège du conseil présidentiel, qu'Alix Didier Fils-Aimé a été investi comme nouveau premier ministre de transition. Visiblement ému, le chef du gouvernement a promis de répondre aux attentes placées en lui.
Je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel.
Dans son discours, celui qui avait déjà fait partie des finalistes pour le poste de premier ministre en avril dernier a aussi présenté ses sympathies aux familles des victimes des récentes violences de gang, un fléau qu'il s'engage à combattre. Le désormais nouveau patron de la primature fait de la sécurité l'une de ses priorités.
Le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité et liberté de circulation sur tout le territoire national.
Même si la situation sociopolitique et économique du pays est alarmante, Alix Didier Fils-Aimé invite la population à continuer à avoir foi dans le pays.
Situation malouk, mais
la situation est catastrophique, certes, mais rien n'est impossible. Ce n'est pas le moment de perdre espoir.
Pour nous désespérer.
Empli d'émotion au moment de prononcer son allocution, Alix Didier Fils-Aimé s'est montré touché par les enjeux et les attentes placées en lui. Difficile de dire comment il traduira ses promesses en actions concrètes pour sortir le pays de l'instabilité actuelle. Peterson Luxama, Port-au-Prince. RFI.
Et signe d'une situation sécuritaire préoccupante juste avant l'investiture du nouveau Premier ministre. Un vol de la compagnie américaine Spirit Airlines, parti de Floride à destination de Port-au-Prince, a été détourné vers la République dominicaine. Une inspection a révélé des preuves de dégâts sur l'appareil compatible avec des tirs d'armes à feu, a indiqué le transporteur américain qui fait aussi état de blessures légères infligées à un membre d'équipage. Aux États-Unis, Donald Trump continue de dévoiler au compte-goutte de sa future administration. Le New York Times croit savoir que le sénateur Marco Rubio aurait les faveurs de Donald Trump pour devenir le prochain chef de la diplomatie américaine. Le sénateur de Floride, d'origine cubaine, partisan d'une politique de fermeté, notamment vis-à-vis de la Chine, de l'Iran ou de Cuba. Vous l'avez peut-être suivi en direct il y a quelques minutes. Jean-Noël Barrot était l'invité d'RFI et France 24, le chef de la diplomatie française, qui a été interrogé sur la situation au Proche-Orient. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'avait pas eu la confirmation de la venue à Paris cette semaine du ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, invité à participer demain à Paris au gala Israel Forever, événement de soutien à Israël organisé par plusieurs personnalités d'extrême droite. Bezalel Smotrich, ardent défenseur de la colonisation en territoire palestinien. Écoutez à ce propos Jean-Noël Barrot.
Nous dénonçons la politique qui est encouragée par ce ministre du gouvernement israélien qui consiste à poursuivre une activité qui est illégale au terme du droit international, la colonisation et la colonisation agressive de la Cisjordanie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons activé d'autres sanctions à plusieurs reprises, au titre national d'abord, en ciblant 28 colons extrémistes et violents, qui pour certains ont été encouragés par ce ministre du gouvernement Netanyahou. Et puis ensuite, au niveau européen, où nous avons été moteurs pour créer un régime de sanctions visant les entités ou les personnes coupables ou complices de faits de colonisation. Ce régime a été activé deux fois. Nous avons lancé deux trains de sanctions à l'encontre de ces personnes et de ces entités. Et nous sommes en train de travailler sur un troisième train de sanctions européen.
Jean-Noël Barrot, au micro d'Arnaud Pontus et de Caroline de Camaret, entretien à retrouver sur RFI.fr. 9h05, à l'écoute de Radio France Internationale, le Sénégal à moins d'une semaine maintenant des élections législatives. Un rapport de 46 observateurs de la société civile alerte sur l'augmentation des cas de violence durant les 10 premiers jours de la campagne et la persistance également de l'utilisation des moyens de l'État dans certaines localités. À Dakar, les précisions de Léa-Lisa Westerhoff.
Le ministre de la Santé qui amène du matériel dans un dispensaire à Pau d'Or, dans le nord du pays, alors qu'il est candidat et tête de liste dans ce même département. Voilà l'un des cas d'utilisation des moyens de l'État recensés par le Forum civil, qui dénonce, je cite, « une rupture d'égalité entre les compétiteurs ». 26% d'incidents de ce type ont été signalés pendant les 10 premiers jours de campagne. Autre sujet de préoccupation, les cas d'achat de conscience. 20% des incidents concernent cette pratique, selon l'organisation de la société civile. Enfin, il y a la violence électorale qui est montée d'un cran pendant la première semaine de campagne, avec entre autres le siège d'un parti d'opposition incendié à Dakar, des affiches saccagées et des bagarres de militants dans le centre du pays. Le Forum civil appelle à renforcer la sécurisation des cortèges. Satisfait par contre sur les préparatifs électoraux. Les 46 observateurs à long terme du Forum civil ont notamment relevé le bon fonctionnement des commissions de distribution des cartes d'électeurs, et ce, même si plusieurs centaines attendent encore d'être récupérées. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Les chefs d'État et de gouvernement attendus aujourd'hui et demain à Bakou en Azerbaïdjan pour la COP29 qui a débuté hier. Le virage écologique décidément difficile à aborder. Comme en Allemagne, sur place, la production de véhicules électriques peine à décoller. Certains foyers qui l'avaient adopté ont repris un véhicule à essence. Reportage Nathalie Versieux.
34% des propriétaires de véhicules électriques ayant décidé de changer de voiture cette année ont finalement opté pour un modèle équipé d'un moteur à essence ou à diesel. Britta fait partie de ces automobilistes qui ont tourné le dos à l'électrique.
Nous avons vendu notre voiture et racheté un modèle diesel parce que les performances n'étaient pas à la hauteur.
Mais c'est surtout la fin de la prime à l'achat en début d'année qui a cassé le marché, comme l'explique Michael Gephardt, le porte-parole de l'association des automobilistes ADAC.
Comme vous l'avez mentionné, pour de nombreux automobilistes, la fin de la prime à l'achat, c'est clairement un motif pour ne pas acheter de voiture électrique.
La prime à l'achat, introduite en 2016, avait contribué à la vente de plus de 2 millions de voitures électriques jusqu'à fin 2023, mais une décision de la Cour constitutionnelle avait alors interdit au gouvernement d'affecter à la lutte contre le réchauffement climatique une enveloppe de 60 milliards d'euros inutilisée dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Enfin, à Bruxelles, les futurs commissaires européens sont auditionnés sans leur conseiller pendant 3 heures. Dernières auditions prévues aujourd'hui, Laxmilotin.
Au programme, plus de 3 heures d'examen oral sans assistance de collaborateurs. La performance est filmée et diffusée en direct sur Internet pour que les citoyens puissent eux aussi juger des capacités du candidat commissaire. Face aux eurodéputés, il faut présenter son programme, prouver son engagement européen, son indépendance face aux différents lobbies et surtout ses connaissances dans les thématiques du portefeuille visé, culture, finance ou numérique par exemple. Tout le monde n'y parvient pas. En 2019, 3 personnes ont échoué. Il y a également des questions écrites auxquelles les candidats ont dû répondre au préalable. Leurs réponses sont aussi publiées sur le site internet du Parlement. Pour les aider à réviser, la Commission européenne met à leur disposition des résumés sur les dossiers importants et les enjeux à venir pour l'Europe. 26 commissaires au total passeront l'examen. Une fois les auditions terminées, le Parlement votera pour approuver ou rejeter la Commission européenne dans son ensemble lors d'une session plénière. Laxmilota, Bruxelles, RFI.
Bruxelles et Paris, oui, il est 10h10. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Paré pour Priorité Santé.
Merci beaucoup, Jeanne Bartoli.